Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ce 9 juin 1902, le public se presse dans la grande salle de concert de la ville de Krefeld, en Allemagne. Au programme, une symphonie, et une seule. La symphonie numéro 3 de Gustav Mahler, que le compositeur va lui-même diriger et présenter pour la première fois. Cela fait déjà 6 ans que l'œuvre est achevée, mais elle n'a jamais été jouée en intégralité. Tout ce temps avant que l'entièreté d'une symphonie puisse enfin être offerte aux oreilles du public. Il faut dire que son ampleur est inhabituelle pour l'époque. Depuis que la forme de la symphonie a été fixée, notamment par Joseph Haydn dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la durée des œuvres n'a de cesse de s'allonger et l'orchestre de s'étoffer. Tout n'est pas strictement codifié, mais d'une vingtaine ou une trentaine de minutes en moyenne, les œuvres passent au XIXe siècle à 40 et parfois 50 minutes. En 1824, Beethoven fait sensation avec sa 9e symphonie de plus d'une heure. Mais ce soir, de 1902 à Krefeld, les limites vont être repoussées à l'extrême. La 3e symphonie de Mahler dure plus d'une heure et demie. Elle reste encore aujourd'hui considérée comme l'une des plus longues du répertoire classique. 6 mouvements, au lieu des 3 ou 4 traditionnels, interprétés par plus de 100 musiciens, flanqués d'un chœur de femmes, un autre de jeunes hommes, en plus d'une mezzo-soprano. Rien de moins, le compositeur lui-même dit qu'elle n'a rien de commun avec la forme habituelle, à tel point qu'il lui arrive de se demander si réellement cela devait être écrit. Mahler l'a écrite, et il a bien fait. Ce soir-là, sans parler de triomphe, on peut aisément évoquer un petit succès. La salle n'est pas avare en applaudissements, ce qui fait sûrement chaud au cœur du musicien qui, il faut bien le dire, ne jouit pas toujours d'une telle reconnaissance. Si nous connaissons aujourd'hui le compositeur Gustav Mahler, son époque voit surtout en lui un brillant chef d'orchestre. Né dans une famille juive de langue allemande en 1860, Gustav grandit en Moravie, alors terre de l'Empire austro-hongrois, avant d'intégrer à 15 ans le conservatoire de Vienne. Extrêmement doué, le jeune Mahler n'en est pas moins incompris. Au conservatoire, il se voit jeter au visage la partition d'une composition que le chef d'orchestre juge truffée d'erreurs. Une scène d'humiliation qu'a dévoilée sa confidente et amie Nathalie Bauer-Lechner, qui a entretenu une relation si particulière avec le compositeur. Le conservatoire terminé en 1881, Das Klagen des Lieder, une cantate avec chœur et orchestre, est refusée au prestigieux concours Beethoven. Ces échecs incitent Mahler à se tourner vers la direction d'orchestre. Et il connaît cette fois-ci le succès. De Ljubljana à Kassel, Leipzig, Prague, Budapest ou Hambourg, sa carrière le mène jusqu'au firmament que constitue la direction de l'Opéra et de l'Orchestre philharmonique de Vienne, qu'il décroche en 1897 auprès d'une conversion à la fois catholique dans cette époque où l'antisémitisme devient, hélas, une triste réalité. Très pris par son travail, Mahler ne trouve le temps de composer uniquement les mois d'été qu'il passe au bord des lacs autrichiens. Excepté un quatuor inachevé d'une ténébreuse intensité, il écrit surtout des symphonies et des lieder, des chants allemands accompagnés par l'orchestre, basés sur des textes populaires ou des poèmes romantiques dans lesquels il magnifie l'art de mettre en musique la prosodie du verbe. Mais c'est certainement dans son œuvre symphonique que son talent se déploie le plus. Fort de sa pratique, des compositeurs l'ayant précédé et dont il renouvelle l'interprétation, Mahler donne un nouveau visage à la dimension évocatrice de l'orchestre. Avec sa 3e et longue symphonie, par exemple, au travers des 6 mouvements, Mahler veut suggérer la nature minérale, puis les végétaux, les animaux, les hommes, les anges et enfin l'amour, terrestre comme divin. C'est une musique narrative, elle crée un chemin des sentiments qui aboutit, en l'occurrence, à une véritable ascension cosmique. La symphonie, dit-il, doit être pareille à l'univers entier, elle doit tout embrasser. Gustav Mahler mêle les voix et les chœurs à l'orchestre, comme certains précurseurs, Beethoven ou Berlioz, l'ont fait avant lui. Il innove en n'hésitant pas à reprendre dans ses compositions des bribes de mélodies paysannes, des marches militaires, d'airs juifs ou bohémiens qu'il a entendus dans son enfance. Mais il n'assujettit pas la musique populaire à la grande musique classique. Il donne une réelle place à ses mélodies, qui s'épanouissent dans sa vision romantique. Ce qui n'empêchera pas les critiques de qualifier sa musique banale ou vulgaire. Critiques qui parlent aussi d'incohérence et de disparité au sein d'œuvres qu'ils ne comprennent manifestement pas. Car Mahler ouvre la voie au futur de la musique. En fragmentant les thèmes, en jouant les dissonances, en dépassant parfois la gamme chromatique, il mène vers l'émancipation qu'assumera la musique dite atonale, sans se soucier des cadres harmoniques tels que les a connus jusqu'ici la musique occidentale. Mahler développe d'ailleurs de très bons rapports avec Arnold Schönberg, représentant du mouvement pionnier que l'on appellera la deuxième école de Vienne, qui déstructure le solfège et marquera de son influence la musique du XXe siècle. Il fait aussi la connaissance, notamment grâce à son épouse Alma, grande artiste dont il a pourtant exigé qu'elle abandonne la musique, de tout le milieu qui fait de Vienne un environnement bouillonnant où l'art, l'architecture et la musique sont en pleine révolution. Il s'épanouit dans cette émulation artistique et son travail à l'Opéra de Vienne, tout en continuant à composer, jusqu'à ce que l'année 1907 bouleverse son existence à jamais. Mahler perd l'une de ses filles des suites d'une diphtérie. On lui diagnostique une grave maladie cardiaque et il se voit contraint de démissionner de l'Opéra de Vienne sur fond de mésententes internes et de campagnes de presse teintées fortement d'antisémitisme. Mahler n'est pas loin d'être anéanti, mais il lui faut bien rebondir. Et ce sera par un saut par-dessus l'Atlantique. En 1908, il accepte le poste de premier chef d'orchestre au prestigieux Metropolitan Opera de New York et y connaît un certain succès tout en retournant composer dans sa campagne autrichienne durant l'été. En septembre 1910 à Munich, Mahler dirige sa 8e symphonie et savoure enfin son premier grand triomphe auprès du public. Bien que légèrement moins longue que la 3e, environ 80 minutes tout de même, la démesure est au rendez-vous. 171 instruments, 850 choristes et 8 chanteurs solistes donnent à cette œuvre son surnom de Symphonie des Mille, rapport au nombre d'exécutants. L'année suivante, à New York, où il dirige désormais l'orchestre philharmonique, Mahler est obligé d'arrêter la saison et de rentrer précipitamment en Europe alors que son état de santé se dégrade. Il décède à Vienne le 18 mai 1911, sans avoir pu achever la composition de sa 10e symphonie, ne parvenant donc pas à faire mentir une superstition à laquelle il était sensible. En effet, depuis Beethoven, tous les compositeurs seraient emportés par la mort avant de pouvoir en écrire plus de 9. Ironiquement, Gustav Mahler meurt alors que l'Opéra de Vienne allait lui reproposer la direction. Ce qui fait dire au critique Karl Kraus, qui ne fut pourtant pas toujours tendre avec lui, « Maintenant, il est trop tard, on tente de réparer les fautes anciennes. Maintenant, on se souvient qu'il était l'un des nôtres. » Et ceci atteste de ce qui est souvent le cas des grands artistes. Ils sont en avance. Mahler avait coutume de dire « Mon temps viendra ». Bon, restait à savoir quand. Il ne fut pas pleinement reconnu de son vivant et demeura relativement déconsidéré après sa mort. L'interdiction de sa musique par le Troisième Reich n'ayant pas aidé. L'engouement émerge pourtant dans les années 50 et surtout 60, lorsque le grand chef d'orchestre, Leonard Bernstein, enregistre l'intégrale des symphonies avec le Philharmonique de New York et contribue grandement à la redécouverte du compositeur. Gustav Mahler est depuis lors admiré et vanté pour son modernisme. Son temps est enfin venu.
Europe 1, historiquement vôtre.